Bienvenue à Vive la Radio, Jean-Nicolas, et merci. Dites-nous où nous sommes, parce que là, c'est une cave magnifique. Je vois ici non seulement des poutres énormes, mais je vois une sorte de décor, une sorte de reste, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, des colonnes, je ne sais pas.
Des encorbellements,
probablement, qui me donnent l'impression qu'on est dans un endroit qui est très vieux. Où sommes-nous, Jean-Nicolas? Bonjour et bienvenue à Vivre la Radio.
Bonjour, donc nous sommes dans la cave de l'hôtel Elisabeth à Saint-Malo. C'est un des plus vieux bâtiments de la ville historique de Saint-Malo, de ce qu'on appelle Intramuros. La maison a 400 ans, un tout petit peu plus, puisqu'elle date de 1600. Il y a une pierre au-dessus d'une fenêtre à l'extérieur où il y a gravé la date de 1600. Donc elle a 400 ans maintenant. Les poutres qu'on voit là sont des poutres d'époque qui ont été mises là à la construction, qui ont été sauvées au moment où la maison a été transformée en hôtel et qui ont été préservées. Et on est donc là dans la cave certainement d'un ancien armateur du XVIIe siècle, puisqu'on sait que cette maison n'était pas une maison de prestige, c'était pas un hôtel particulier, c'était une maison où on travaillait, les plafonds sont bas. Et on est situé là où étaient anciennement, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, là où étaient les remparts et les portes. Donc on était juste en face d'une des entrées, et qui est l'entrée où les bateaux venaient s'échouer. Donc les deux pistes qu'on a, on a été chercher aux archives. Soit c'était un bistrot, où les marins venaient boire et plus en descendant de bateau. Soit c'était, et c'est la piste la plus plausible, les bureaux d'un armateur, peut-être après les bureaux de la première compagnie des Indes qui s'est établie à Saint-Malo. Donc voilà. Et donc là, on est dans la cave où peut-être il y a eu des trésors et des choses comme ça.
Quand on dit une maison du 1600, les gens pensent qu'en Europe, ça, c'est pas forcément très étonnant, parce que effectivement en Europe et en France en particulier, on trouve toujours des vieilles constructions. Mais il faut dire qu'à Saint-Malo, c'est tout à fait particulier, parce que Saint-Malo a été très, très frappée, très, très détruite. Donc ce n'est pas n'importe quoi le fait qu'il puisse y avoir une construction de 1600.
C'est vrai, il y a eu deux destructions majeures à Saint-Malo. Une première en 1661. Il y a eu un grand incendie qui a ravagé la ville. Et à l'époque, les maisons étaient pour la plupart à pans de bois, tout en bois. Et donc seules les quelques maisons déjà en pierre ont survécu. Et celle-là avait la chance d'être déjà en pierre. Donc elle est de 1600 et elle est donc antérieure au grand incendie. Il y en a quelques autres, il y en a une dizaine en ville, à peine. Et puis, il y a eu 1944, les combats pour la libération de Saint-Malo. Saint-Malo était une place forte allemande, et les combats ont été très très durs en août 44, et 80% de la ville a été entièrement détruite. Et encore une fois, cette maison-là a été deux fois bénie et deux fois préservée. Bon, on a vu d'autres maisons à l'autre bout de la ville, et dans ce bout-là, il y a eu les deux extrémités et les remparts qui n'ont pas été trop abîmés, mais 80% de la ville a été réellement détruite. Et à titre d'exemple, l'île de Sézambre, qui est au large dans la baie, est l'endroit de France où est tombé le plus grand nombre de bombes au mètre carré pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, Saint-Malo, c'est un endroit, un port, on l'a dit, donc cette maison même, probablement, elle était d'un armateur, donc de quelqu'un qui possédait des bateaux, qui envoyait des gens, des malouins et des bateaux au monde entier. Mais c'est aussi aujourd'hui, surtout ces dernières années, une ville où beaucoup de gens viennent, y compris vous-même, parce que vous n'êtes pas malouin à l'origine.
Non, on n'est pas malouin. Moi, je suis d'une origine très, très mélangée, européenne, de plusieurs provenances. Et je suis arrivé ici à l'âge de 17 ans comme moniteur de voile. Et voilà, j'ai posé mon sac et j'ai pensé que c'était là que je viendrais certainement un jour dès le départ. J'y suis ensuite revenu tous les étés pendant plusieurs années comme moniteur de voile chaque saison. Puis après, les études et le travail m'ont plutôt gardé sur Paris. Mais chaque fois qu'on avait du temps, on revenait plutôt l'hiver. Et quand j'ai rencontré Isabelle, le premier endroit où j'ai voulu l'emmener, c'était ici. Et ça nous est apparu comme une évidence qu'on essayerait de s'installer ici un jour.
Alors, pourquoi Saint-Malo serait-elle une évidence?
Je sais pas, ça c'est des questions de vibration, d'accroche, de lieu où on peut vivre sans bouger tout en voyageant. C'est-à-dire qu'on est là et on regarde les bateaux, on regarde l'eau, on sait que de là partent les routes et les voies vers le monde. C'est vraiment quelque chose d'important. Après, c'est toute cette histoire, quoi. Les corsaires, les Terre-Neuve, les Cap-Horniers, c'est aussi ce sentiment d'être dans un endroit très très protégé. On l'a dit, bon, bien sûr, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Saint-Malo a été prise, mais par contre, les Anglais ont essayé pendant 400 ans de prendre Saint-Malo, ils n'ont jamais réussi, et il a fallu attendre maintenant, maintenant ils viennent le prendre avec le ferry, mais ils n'ont jamais pu le prendre avec des bateaux de guerre. Et on sait que, par exemple, quand il y a des tempêtes, il y a quelques semaines, il y a eu une grande tempête sur toute la Bretagne, avec des vagues de 15-20 mètres au large, eh bien, on est là, nous, dans les murs, et c'est à peine si on sent que le vent souffle. Et il faut sortir par les portes pour se rendre compte que dehors, les éléments sont déchaînés. Donc c'est une ville où on se sent vraiment protégé et en même temps prêt à partir très loin, même sans bouger.
Je ne voudrais pas qu'on continue sans faire une petite parenthèse par quelque chose qui, évidemment, ne pouvait peut-être, dirions certains, probablement vous-même, ne pouvait se passer qu'à Saint-Malo. C'est ce fameux festival qui s'appelle les Étonnants Voyageurs. Et pour nous, les Latino-Américains, et pour nous, Chiliens en particulier, le festival des Étonnants Voyageurs a une sorte de résonance particulière parce que c'est un festival qui a, d'une certaine manière, relancé de façon très forte et rendu un hommage très mérité à Francisco Coloane. Est-ce que justement ce festival, d'une certaine manière, devait se tenir ici et fait partie de ces vibrations dont vous parliez tout à l'heure?
Oui, ça c'est une évidence. Les étonnants voyageurs, beaucoup d'étonnants voyageurs sont partis de Saint-Malo parce que bon, on parlait des découvreurs, mais Mahé de la Bourdonnais qui est parti dans l'océan Indien, Jacques Cartier qui a découvert le Canada est parti d'ici. Bon, tous les corsaires partaient et revenaient. Et puis c'est de Saint-Malo qu'est partie la route du café, qui a été vers l'Éthiopie, vers Mocha. Bon, et ensuite la route du guano vers le Chili, le Cap Horn, toutes les. Donc c'est évident que ce point est un point de départ des voyages. Et que quand Michel Lebris a monté Étonnant Voyageur, c'était forcément ici. En plus, il a des attaches, bien sûr, à Saint-Malo. Donc ça pouvait être que là, cette année, ils se sont, pour la première fois, transportés en Haïti, puisqu'il vient d'y avoir une édition outre-mer d'Étonnant Voyageur qui vient de se dérouler à Haïti. Et donc il y aura maintenant, je crois, si j'ai bien compris ce qu'il disait, chaque année, outre l'édition principale qui est à Saint-Malo, au mois de mai, il y aura en plus, à chaque fois, une autre édition. Mais pour continuer juste là-dessus, en plus d'être un voyageur, alors pour l'hôtel Elisabeth, c'est un grand moment parce que l'hôtel est réservé entièrement par le festival chaque année et nous accueillons uniquement des écrivains, des cinéastes et c'est un grand moment de partage, d'échange, d'enrichissement. Ça a été, nous on a repris l'hôtel au mois de mai le 15 et le festival a commencé le 17 et donc ça a été notre baptême de l'installation à Saint-Malo et en rencontrant des gens extraordinaires pendant une semaine. C'était vraiment très très bien. Voilà.
Alors, justement, l'hôtel, donc, vous venez de le dire, c'est aussi un métier dans lequel, comme la malouinité, c'est un acquis, c'est une décision de se lancer dans cette aventure. Comment ça se passe? C'est quand même un changement important, et je dois dire, parce que les gens ne le voient pas forcément, que c'est quand même un hôtel où vous et votre compagne Isabelle, vous êtes tout le temps vraiment au four et au moulin. Vous avez été hier soir réveillonné comme tout le monde. Vous étiez ce matin sur le pont, si on peut dire, de très bonne heure. Comment ça se passe? C'est une vie intense. Vous n'êtes pas venu vraiment pour vous reposer là?
Non, non, ça c'est sûr qu'on n'est pas venu pour se reposer. Là, on a donc démarré le 16 mai et depuis le 16 mai, c'est 7 jours sur 7, sans week-end, sans arrêt. Mais c'était vraiment un choix, on savait ce que c'était parce qu'on n'est pas non plus des rêveurs parisiens qui ont rêvé de partir à la campagne ou je ne sais quoi, ou au bord de la mer. Isabelle a fait des études d'hôtellerie, elle est diplômée d'une école hôtelière en France et de la très grande école hôtelière de Lausanne en Suisse. Elle a travaillé un peu dans l'hôtellerie, puis dans le tourisme beaucoup. Quant à moi, je suis né dans un restaurant étoilé au guide Michelin. J'ai derrière moi 5 générations d'hôteliers-restaurateurs. Et mon grand-père, Julien François, était le président fondateur de la Fédération de l'hôtellerie française. Et il a été aussi le président de l'école hôtelière de Paris et des choses comme ça. Et si j'ai le droit à une anecdote qui est pour moi ce qui résume tout, en mars 1960, il y avait le congrès de la Fédération de l'hôtellerie qui se passait à Saint-Malo. Et le dîner de gala du soir du congrès était au restaurant de la Duchesse Anne, qui est dans les Remparts, qui est un des restaurants les plus prestigieux de Saint-Malo, qui est une institution très classique. Et mon grand-père président faisait le discours de fin du congrès, et le maître d'hôtel est venu le déranger en lui disant « Écoutez, je suis désolé, monsieur le président, d'interrompre votre discours, mais vous venez d'être grand-père. » Et c'était ma naissance. Donc en fait, ma naissance a été annoncée à Saint-Malo, à 100 mètres d'ici, il y a un peu moins de 50 ans. Donc voilà.
il fallait venir.
C'était un signe, ça m'appelait ça.
Alors, Jean-Nicolas, une vie d'hôtel, est-ce que c'est aussi, vous l'avez dit à propos des étonnants voyageurs, j'imagine que c'était presque, pas un baptême de feu, mais presque, c'était un vrai cadeau pour démarrer, avec un public tout à fait particulier. Mais sinon, comment ça se passe? Quelle est la saison, par exemple, où Saint-Malo est le plus visité, et quelles sont les raisons qui font que les gens viennent à Saint-Malo? Est-ce que vous êtes surpris parfois par les motivations? Est-ce que vous êtes déçus? Comment ça se passe?
On n'est pas déçus parce qu'on savait, très modestement au départ, quand on s'est dit qu'on allait monter un hôtel ou acheter un hôtel ensemble avec Isabelle, parce que c'était ce qui nous rapprochait le plus, c'était le plus de choses qu'on pouvait essayer de faire ensemble, puisque le projet au départ c'était vivre et travailler ensemble, au lieu de se croiser en rentrant du bureau à Paris. Et à partir de là, on cherchait en Bretagne. C'était sûr que c'était la Bretagne. Maintenant, on n'espérait pas Saint-Malo et on a eu la chance de trouver cet hôtel. Donc ça, c'était bien. Alors après, comme on savait que ce serait très, très dur, très prenant, c'est un petit hôtel qui a 17 chambres et on avait la volonté de ne pas prendre plus de 20 chambres. D'abord, on n'avait peut-être pas les moyens d'acheter plus de 20 chambres, mais en tout cas, on voulait avoir du temps avec chacun. On voulait pouvoir prendre du temps avec chacun. On n'a pas envie d'être des loueurs de lits. On a envie d'être des passeurs, des gens qui expliquent, qui accueillent et qui font découvrir et partager. Ça, c'est vraiment très important. Je crois qu'on connaît bien le coin. On y a pas mal traîné plus jeune. Et y a des endroits et des personnages qu'on a envie de faire découvrir dans le coin. Et donc, chaque fois qu'on peut, chaque fois que nos clients en ont envie, on essaye de les envoyer, de leur faire partager des moments comme ça, des balades. Alors, sur la saisonnalité et sur votre question, nous, on espère qu'il y aura plus de saisons à Saint-Malo. C'est aussi pour ça, parce qu'on n'est pas que des rêveurs affectifs, on a fait des études de marché aussi. Le TGV est arrivé à Saint-Malo l'année dernière. Il y a 3 TGV directs pour Paris. En 2h50, vous êtes à Saint-Malo. Donc, vous quittez votre bureau à 4h30, 5h. Vous êtes pour l'apéritif au bord de la mer. Donc, on compte là-dessus. Et on sent bien que maintenant, on a eu un extraordinaire mois de septembre. Octobre a été bien, un petit peu moins en novembre. Là, on vient de voir beaucoup de monde. On pense avoir pas mal de monde sur le printemps. Donc, heureusement, il n'y a pas que juillet et août à Saint-Malo. Et d'ailleurs, la clientèle de juillet et août est une clientèle qui peut-être vient en vacances, mais peut-être va moins chercher à partager et à découvrir que les clientèles qu'on peut avoir, entre guillemets, hors saison, qui, elle, a plus de temps et prend plus de temps. Ce qu'on pense, c'est qu'il n'y aura pas de saison réellement creuse.
Alors, vous n'êtes pas loueur de lit, vous voulez être un passeur. La preuve, c'est que vous êtes là pendant votre travail en train de nous accorder cet entretien. Dans l'une de nos conversations, justement, pendant notre séjour ici, vous nous avez parlé, on est arrivé, je ne sais plus comment, mais peu importe, au mot jazz, à la musique. C'était à propos du réveillon, je pense. Bon, voilà. Alors, le jazz, c'est quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement?
Oui, ça c'est sûr, c'est la musique que je préfère, même si j'ai peu d'exclusions dans mes goûts musicaux. Mais le jazz, il y a quasiment en permanence du jazz qui tourne à la réception. On essaye de découvrir, de faire découvrir. Je suis assez content parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est qu'on entend? C'est qui cette chanteuse ?» En ce moment, je crois que notre favorite, c'est Thérèse Moncalm, une Québécoise qui a fait quelques reprises de standards rock en jazz, qui sont vraiment des bons moments et qui a une voix forte. Sinon, le jazz, oui, c'est plein de festivals, c'est des sorties de jazz, parce qu'à Saint-Malo, il se passe pas mal de choses en jazz. Il y a un petit festival de jazz qui a démarré l'année dernière. Il y a un restaurant juste derrière là-bas qui s'appelle Les Vieilles Pierres, qui au moins une fois par mois organise des dîners de jazz avec des jazzmen et des jazzwomen, parce qu'on a pas mal de jazzwomen dans la région. Une violoniste qui jouait hier soir, par exemple, pour le réveillon. Donc voilà, on a un bar jazz intramuros qui s'appelle le Shabada, et on a pas très loin le grand festival Jazz sous les pommiers à Coutances, de l'autre côté de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est une région qui groove bien. Il se passe des choses aussi à Dinard, au Grand Hôtel de Dinard. Il y a souvent des et là pour le coup avec des vedettes internationales du jazz. Et voilà, la semaine dernière, on a eu une journée où on a passé que du Oscar Peterson, par exemple. C'était notre manière d'en parler, voilà.
Alors, je dois vous dire que toujours cette rencontre se termine avec la demande suivante. Dites-nous 3 morceaux de musique, je soupçonne que ça va être du jazz, que vous aimeriez qu'on écoute, que les auditeurs notamment écoutent avec nous juste après la fin de notre interview.
Alors, en premier, on vient de parler de Thérèse Montcalm, et moi je suis sous le charme de Voodoo, de Thérèse Montcalm, qui est Voodoo Child, qui est la reprise du morceau de Jimi Hendrix en jazz, et c'est vraiment, mais vraiment extraordinaire. Deuxième morceau d'un jazz peut-être un peu hors des sentiers battus, Petra Magoni et Ferruccio Spinetti. Et là, quel morceau peut-être encore une fois une reprise détournée jazz de I Will Survive, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça que j'ai découvert Petra Magoni. Je l'ai entendu sur TSF le matin. J'étais encore au bureau à Paris en costume cravate. J'allais au bureau. Je l'ai entendu et ils ont passé sur TFF et ils ont dit « Elle est ce soir au Sentier des Halles ». J'ai appelé Isabelle, j'ai dit « Je ne sais pas ce que tu as prévu ce soir, mais on va au Sentier des Halles ». Et on a découvert Petra Magoni, on l'a revu au New Morning 2 mois après, et ça, ça a été un grand coup de cœur aussi. Et après, peut-être pas que du jazz quand même, pas un morceau, enfin une œuvre dont vous trouverez l'un des morceaux qui vous plaira, « Les Vêpres de la Sainte Vierge » de Monteverdi. Ça, il y a une édition qui est sortie l'année dernière qui est vraiment superbe. On aime bien la musique baroque. Souvent, au petit déjeuner, il y a de la musique baroque qui nous paraît correspondre au petit déjeuner, au moment du petit déjeuner ici. Donc, les Vêpres de la Sainte Vierge, un des morceaux. Voilà trois morceaux.
Normalement, il est dit que le journaliste ne doit jamais se mettre très en avant. C'est une bonne chose. Mais il y a des moments où ce n'est pas possible de le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Non seulement parce que ça a été en général un bon moment de vous rencontrer, mais parce que il y a des choses comme ça magiques qui se passent, et là, en l'occurrence, c'est à propos de Petra Magoni, parce que nous étions aussi ce soir-là au Sentier des Halles. Moi aussi, je l'ai découvert le même soir au Sentier des Halles, et je trouve que c'est quand même bon signe.
Ah, ça, c'est vraiment génial. On aurait dû se voir ce jour-là. Oui, c'était un grand moment, ça. Oui.
Jean-Nicolas, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous et bienvenue à Saint-Malo la prochaine fois que vous reviendrez.
stand up next to the mountain and I chop it down with the edge of my hand. Making a land, I might even raise a little sand. 'Cause I'm a voodoo child, the Lord knows I'm a voodoo child.
Vive la radio.
Vive la radio.
Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walk in to find a here. Second, you'd be back to bottom.
Just turn around now, you're not welcome anymore. Weren't
ever tried to break me, to break me with goodbye, do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? I'll survive, you know, I'll survive.
Long, long,
Vive la radio.
Vive la radio!